Voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie de ce dernier cours. Donc, c'est très triste d'en finir, mais bon, on va quand même en finir en beauté avec la manifestation des fils de Dieu. Donc, c'est la dernière partie du second chapitre, Cosmos et liturgie. Là encore, vous connaissez probablement cette expression, la manifestation des fils de Dieu. En fait, elle nous vient de saint Paul, dans l'épître aux Romains, qui dit. Vous allez voir, comme c'est ça qui a inspiré toute ma première partie. C'est un texte d'ailleurs qui est cité par le pape François dans Laudato Si. Il dit ceci, chapitre 8, versets 18 et suivants: La création tout entière est en attente. Elle aspire à voir la manifestation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, ce n'est pas parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais c'est toujours avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit dans le travail de l'enfantement. Voilà, alors ça c'est un texte absolument extraordinaire qui est. C'est là où apparaît l'expression. La révélation des fils de Dieu, qui est donc pensée par saint Paul comme ce qui va libérer le cosmos de l'assujettissement, de l'asservissement, quand les enfants des hommes seront manifestés comme fils de Dieu. Je propose quatre réponses que l'homme religieux, l'homme de foi, va mettre en œuvre pour sauver le cosmos de cette servitude. Je n'irai que dans le domaine de l'architecture sacrée, parce que je suis bien documenté. Vous savez peut-être que c'est quelque chose que j'enseigne à l'Institut catholique de Paris, où j'ai dans un petit département qui s'appelle l'ISTA, Institut supérieur de théologie des arts, j'ai deux masters sur l'architecture sacrée. Ce sera donc ma source, mais il faudrait évidemment. Quand on parle du travail des hommes, de la manifestation des hommes, il faudrait évidemment parler du travail de l'homme, de son ingénierie, de son labeur. Il faudrait évidemment évoquer Théard de Chardin, etc. Tout ça contribue au salut du cosmos. Mais on ne peut pas tout dire. Donc j'ai choisi quatre points. Voici le premier. C'est ce qu'on pourrait appeler les calendriers cosmiques. Stonehenge en est l'exemple le plus connu, mais jusqu'à Omar Khayyam, au XIIe siècle, on a bâti des monuments plus ou moins religieux, plus ou moins des calendriers, mais en tout cas cosmiques. Il s'agissait de calculer les écliptiques, les éclipses, les solstices, les lunaisons, etc. Mais surtout, il s'agissait de comprendre le monde. D'entrer dans l'ordre, d'entrer dans le cosmos, autrement dit. Et donc, de dire, de supposer, d'espérer qu'il y ait un ordre, et que les choses ne sont pas aléatoires, et que s'il y a un ordre, alors peut-être pourrions-nous y avoir une place. Voilà ce que veulent dire, vous voyez, ces grands monuments calendaires. C'est tout le but de ces édifices. Ici, je vous montre par exemple une vue aérienne d'un ensemble extraordinairement curieux au Pérou. Une trace sur le sol, un marquage au sol qui est une telle dimension qu'on ne peut le voir que du ciel, très haut dans le ciel. Et donc, vous voyez, c'est véritablement un dialogue qui s'instaure entre ciel et terre, par ces scarifications au sol ou bien ces alignements. Proclamer au cosmos, en quelque sorte, je t'ai compris, et donc nous allons pouvoir nous concilier. C'est une forme déjà assez savante de liturgie, car il ne s'agit pas seulement de comprendre, de calculer pour prévoir, mais il s'agit d'entrer en accord, en consonance, il s'agit de célébrer, de réaliser cette entente et de ritualiser cette entente possible. Il est probable que c'est ainsi que se comprennent tous ces mégalithes que nous avons, en particulier en Bretagne, mais ailleurs. Le deuxième aspect que je relève, toujours en architecture, c'est que ces installations de mégalithes, ces alignements, ces observatoires sont des architectures, c'est-à-dire des constructions qui nous permettent d'habiter le monde. Mais dans cet art, l'architecture chrétienne a excellé. Et je ne vais vous montrer qu'un exemple, probablement vous le connaissez. Nous y voyons d'une manière explicite la façon dont la liturgie, la nôtre, s'accorde et s'associe à la liturgie du créé. Il y a bien évidemment tout un tas de sculptures dans nombre d'églises qui évoquent, qui convoquent la nature ou les cycles des saisons. Mais il y a aussi une recherche pour faire rentrer dans le volume architectural ce que la nature porte encore des lois éternelles dont le Créateur l'a doté. Par exemple, l'orientation sur le soleil levant. Une recherche pour faire coïncider la liturgie terrestre à cette sorte de liturgie du cosmos que sont les rythmes solaires. Et donc, là où je vous conduis, c'est à Vézelay. Et alors peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, je vais faire juste un rappel de choses qu'ils connaissent et qu'ils ont vues. En premier lieu, il faut redire que si cet édifice s'est posé sur une butte, c'est pour poursuivre en quelque sorte ce que la nature ébauche. Vous voyez, on a toujours considéré que les hauts lieux étaient des montées vers le ciel, des sortes de volonté de se hisser. Et la deuxième raison pour laquelle on bâtit sur des hauts lieux, c'est aussi pour rayonner sur le paysage alentour, le centraliser, le verticaliser, le transfigurer. L'édifice est orienté, l'édifice de Vézelay, nous sommes ici entrés, nous sommes devant, dans le narthex, devant le tympan. Orienté, ça veut dire qu'il est tourné vers l'Orient. Et l'Orient, c'est le signe du Christ ressuscité. Le soleil va donc être le premier à officier dans l'église à chaque lever du jour. C'est lui qui est le premier liturge. Mais il y a mieux. L'axe de la nef est construit de telle façon qu'au solstice d'été, il y a comme un chemin de lumière, des taches de lumière, un chemin qui s'ouvre dès la porte franchie et qui nous conduit de lumière en lumière, pas à pas, jusqu'au sanctuaire, lequel, depuis sa reconstruction au XIIe siècle, est tout envahi de lumière, alors que dans la nef où nous nous tenons, elle se donne au rythme de nos pas. L'église devient en quelque sorte caisse de résonance de la liturgie cosmique. Elle intègre celle-ci dans sa louange, ou, si vous voulez, l'Église prête ses mots, prête ses propres hymnes, ses rites, ses fêtes, aux lois de la nature, qui sont comme les logoi, les paroles, les dits du Créateur. C'était le second dossier, en voici un troisième. S'accorder au ciel. Alors là, je vais citer Olivier Clément. Adam, c'est une citation un petit peu longue, mais un petit peu byzantine. Olivier Clément il est décédé il y a peu de temps, était un orthodoxe théologien, laïque. Voici ce qu'il dit. Adam fut placé comme un jardinier dans l'Éden pour parfaire sa beauté. L'homme est logikos, il est le logos créé qui doit recueillir comme un prêtre et un roi les logoi, les paroles des choses, les paroles des choses pour les offrir au logos incréé, cette fois-ci logos avec une majuscule. Lire la présence du verbe dans le livre du monde, dans le livre de la nature. Voilà la vocation de l'homme. La vocation de l'humanité est celle d'un messie cosmique collectif, disait Vladimir Soloviev, aurait pu dire Teilhard de Chardin, appelé à soumettre la terre, guillemets, soumettre, c'est-à-dire à la transformer en temple. Fin de citation. Donc vous voyez, dans cette soumission de la terre, il n'y a rien d'avilissant. Il s'agit de laisser les logoi des choses de ce monde monter comme si elles étaient porteuses d'esprit. Il suffit de les faire venir à la parole. Eh bien, l'architecture chrétienne est aussi cela. Je l'ai évoqué une ou deux fois, ici ou là, mais l'architecture chrétienne, vous voyez ici en Géorgie, c'est très clair, hein, soulève le rocher, soulève Gaïa, la terre, pour la former en louange, pour lui donner une forme de louange. La forme de cette église est comme telle une louange. Et donc l'architecture ne soumet pas la terre, elle la repose sous cette vocation. Soumettre dans ce sens, vous voyez, sous, mettre sous, mais mettre sous cette vocation. Elle la met sous la louange, sous le cré, autrement dit, elle l'agrandit. C'est, moi, ce que j'appelle le sacrement de la glaise. Vous voyez, c'est, on pourrait dire, le sacrement du rocher, ou le sacrement de la terre, enfin bon. Et comment mieux faire pour dire cette réunion du ciel et de la terre, cette réconciliation du cré et du logos, les épousailles du ciel et de la terre, vous voyez, c'est des expressions qui sont équivalentes, sinon par l'ajustement du cercle et du carré, du cube et de la sphère. Je vous rappelle que le carré, c'est le symbole de la terre, le cercle de la divinité. Et c'est la fonction des coupoles, des croisées du transept, des cercles. Figure symbolique d'une très grande efficacité pour notre thème, car il s'agit bien d'ajuster la terre au ciel. Il s'agit de travailler le rocher, la matière, pour qu'elle puisse recevoir la sphère, le cercle, symbole de Dieu. Ou, si vous redoutez ces propos trop généreux pour la matière, vous traduisez, travailler notre humaine condition pour qu'elle tende à Dieu. Ce qui est plus sensible dans l'architecture occidentale, où tout monte. Et nous n'arrêtons pas de monter, c'est même la fonction principale de l'architecture gothique. Alors certes, il y a ce désir du cosmos de participer aux noces, mais il y a tout autant, c'est la théorie des synergies, plus radicalement le fait que Dieu lui-même vient justifier le cosmos. Et synergie, ça veut dire ça, hein, ça veut dire que c'est ce qui vient de Dieu, une énergie qui vient de Dieu, un don de Dieu. Et donc c'est une théorie byzantine, hein, et là vous voyez Sainte Sophie de Constantinople, de Byzance. Et donc la théorie des synergies, Dieu lui-même vient justifier, vient ajuster, vient recaler, redresser le cosmos. C'est lui qui s'ouvre et qui s'offre, ce qui est le propre du christianisme le plus authentique. Et c'est lui qui rend juste la terre, ainsi soulevée vers lui. Vous voyez, donc c'est ça, Sainte Sophie, c'est l'accord, l'alliance entre la synergie divine, c'est-à-dire il veut s'offrir, il veut se donner, et la terre qui monte vers cette coupole ouverte sur elle. Alors ça, c'est l'architecture byzantine qui est championne du monde là-dedans. Depuis Aristote, et peut-être avant, l'homme, nous sommes ici rentrés à l'intérieur de Sainte-Sophie, l'homme a tenté d'entrer dans l'intelligence des choses, ça je vous l'ai déjà dit, d'abord pour des raisons de confort et de sécurité, il vaut mieux savoir en effet que les pluies provoquent des crues, que la foudre détruit par le feu, et qu'il y a des saisons pour planter les légumes. Mais il faut avoir plus d'ambition pour nos ancêtres. Quand il cherchait à comprendre l'ordre du monde, il voulait bel et bien entrer dans l'intelligence des choses. Et cette église que je vous montre ici à Constantinople s'appelle Sainte-Sophie, c'est-à-dire Sainte-Sagesse, c'est-à-dire Sainte-Intelligence, c'est-à-dire Logos Créateur. Et donc on veut rentrer dans cette intelligence du Créateur. Nous voulons penser comme le Créateur. C'était une manière de le louer que de comprendre et de répondre aux lois éternelles par lesquelles le Logos fit le monde. C'était une manière de dire que nous sommes à l'image et à la ressemblance du Créateur que de découvrir les lois de la physique et de les mettre en œuvre. Et si nous arrivons nous-mêmes, ayant compris les lois de la physique, si nous arrivons nous-mêmes à les mettre en œuvre pour améliorer le monde, alors nous sommes, disons, image du Logos éternel. Tel est encore le projet de Palladio à Venise. Alors, vous connaissez peut-être hein, cette église du XVIe siècle, évidemment, d'un grand maître de la Renaissance. C'est aussi ce même projet, cette même intelligence, rentrer dans l'intelligence du Créateur, qui se déploie dans le chantier des cathédrales, hein, où toute l'ingénierie de l'époque est convoquée. On rend à Dieu ce qu'il nous a donné. Il y a des lois de l'harmonie, une divine proportion, un véritable logos, intelligence divine, parole créatrice, qu'on va mettre en volume. La mathématisation des volumes est une manière de s'accorder à ce qu'on appelait encore les idées pures, dans l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. C'était littéralement incarner quelque chose de l'intelligence du Créateur. Certainement, Palladio avait cette idée-là, ou en tout cas ses commanditaires, quand il a fait, par exemple, l'église de San Giorgio que vous venez de voir, ou celle-ci, l'église du Rédempteur, qui est d'une extraordinaire rigueur calculatrice. Mais la rigueur calculatrice, c'est mettre en œuvre les lois simples, les lois éternelles, les lois donc du Créateur. Quatrième point, un paysage comme celui-ci est déjà magnifique, il est encore plus beau quand cet édifice y est posé. Il y a alors comme un supplément, une orientation, ou mieux encore, un accord, un répond, comme on parle de répond en liturgie. Je crois qu'il y a là une façon d'œuvrer au salut de la matière. C'est de poser au milieu des paysages ce que ceux-ci tentent de dire sans le pouvoir. L'Église bâtit alors ce qui manque à cette beauté, se tourner vers Dieu, se référer au Créateur, transfigurer la beauté en louange. J'ai déjà évoqué ça avec ma théorie de l'exaucement. Une seconde façon, c'est de faire en sorte que la terre elle-même contribue à notre salut. Ici, je vous montre une église très brutaliste de Gottfried Böhm. C'est du rocher, enfin c'est du béton en fait. Mais c'est très significatif de ce soulèvement de la matière, de la lourdeur de la matière qui se soulève pour ménager sous elle, en son corps, une place pour la louange, une place pour nous. Comme si elle voulait que nous soyons la semence de louange qui pourra la libérer. Ce ministère la sauve, en effet, sauve la matière d'une certaine manière. Et comment pourrait-elle sauver ? Ben, en la soulevant, donc, pour se faire enveloppe, l'hôte du corps mystique du Christ qu'est l'assemblée liturgique. Ici, vous avez la basilique souterraine de Lourdes que je voulais vous montrer dans le même propos avec celle de Böhm. Passons à l'image suivante. On est à Sainte. Et une voûte romane, c'est encore plus explicite. C'est un rocher qui se soulève, qui s'allège, qui s'élève pour nous ménager un espace. L'espace où nous célébrons le Christ, c'est, comme dit Olivier Clément à nouveau, c'est comme une grotte de la nativité où le Christ peut venir s'abriter, et le corps du Christ peut venir s'abriter. Et enfin, nous pourrions voir toute l'architecture religieuse comme une transfiguration, une illumination de la matière. Alors ça, c'est tout le projet de Sugère à Saint-Denis, et de l'art gothique, bien entendu. Quelques exemples parmi des centaines, pour finir avec un petit aspect, disons, touristique et ludique. Je vais vous montrer juste maintenant des photos pour finir en beauté. D'abord, l'illumination, bien sûr. L'art de l'Île-de-France a été extraordinairement créatif. Le vitrail projette à l'intérieur du volume des gammes de couleurs qui transforment, qui transfigurent la simple pierre en pierre précieuse. C'est ça la pensée de Sugère, il l'a écrit. Il voulait ça. Il voulait véritablement transfigurer la matière la plus rude, la plus rustique, en un joyau. La couleur, vous savez, est une diffraction de la lumière. C'est une sorte d'incarnation de la lumière insaisissable. C'est une sorte, une manière de saisir quelque chose de l'ineffable. C'est pourquoi autant qu'on le pouvait, on posait de la couleur à l'époque gothique partout, sur les colonnes, sur les murs, et même parfois, dit-on, à l'extérieur quand on avait assez d'argent pour le faire. Mais voici d'autres promenades que je vous propose. Ispahan. Un plafond à Ispahan, complètement dématérialisé, avec des mosaïques extraordinaires, et un certain nombre sont même faites de miroirs. Et donc, vous voyez, vous avez une sorte de projet de spiritualisation de la matière. Voici, en Angleterre, à Brighton, une voûte d'une complexité absolument extraordinaire. Ou bien, à la période contemporaine, Elisabethville, Paul Tournon, 1928, Sainte-Thérèse, une véritable dentelle de béton. Vous voyez, c'est comme une mantille posée sur le corps qui se rassemble. Et puis voici pour finir une église, pas si récente que ça, 1933, hein, par le même Böhm, vous savez, qui faisait de l'art brutaliste. Eh bien, il est aussi capable de faire ça, vous voyez. C'est-à-dire, un mur entier de son église, très sobre, très simple, dans un quartier de Köln, c'est Maria Königin, est entièrement fait d'un vitrail argenté. Et c'est l'art de transfigurer, d'illuminer la matière. Autrement dit, d'exaucer le vœu de la matière de louer son créateur. Voilà, je finis avec ce beau vitrail, je finis ce cours. J'espère que tout ça vous a donné un peu d'enthousiasme. On se retrouve pour notre Zoom, pour quelques questions et quelques libres propos. Vous pouvez évidemment relire tout ça. À bientôt, et à bientôt évidemment à vous inscrire au CIF. Ciao !